Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici La Voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudrey. Il y a quelques événements informés entre autres. Ministère du Tourisme et de l'Économie Créative de la République d'Indonésie encourage la ville de Palembang à devenir une ville créative de l'UNESCO. Indonésie et Bulgarie célèbrent 68 ans de relations diplomatiques dans un musée historique. Soldats de la marine indonésienne au Liban effectuent une formation d'urgence pour anticiper les urgences. Ministère des Transports de la République d'Indonésie explique les raisons de la création d'un centre d'intégration de données maritimes. Révision de la loi sur la justice pénale pour mineurs est nécessaire. Bali entre dans l'histoire en remportant sa première médaille d'or en tennis de table, en double mixte. Et Parlement indonésien a rencontré Parlement de l'Ouzbékistan pour discuter du nouveau gouvernement. Bonjour, je vous dis, voici les nouvelles en complet. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative de la République d'Indonésie encourage la ville de Palembang, dans le sud de Sumatra, à devenir une ville créative de l'UNESCO. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Uno, à Palembang dimanche 15 septembre, cité par Antara, a déclaré qu'en proposant la ville de Palembang comme ville créative de l'UNESCO, elle pourrait ouvrir encore plus d'opportunités d'affaires et d'emploi pour la communauté locale. Sandiaga a également déclaré que pour soutenir cela, il fallait développer davantage d'innovations dans le domaine des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, comme l'organisation de divers événements ou activités afin de créer une collaboration dans le développement des affaires. À cet égard, le maire par intérim de Palembang, Ucok Abdurrauf Darminta, s'engage à continuer à soutenir les MPME et les acteurs de l'économie créative de la ville de Palembang, y compris l'utilisation de nouveaux emplacements qui peuvent être responsabilisés par les MPME et les acteurs de l'économie créative. L'ambassade de la République d'Indonésie, KBRI Sofia, célèbre 68 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Bulgarie au Musée national d'histoire. L'ambassadeur d'Indonésie en Bulgarie, en Albanie et en Macédoine du Nord, Iwan Bogananta, à travers une déclaration officielle de l'ambassade d'Indonésie au Sofia, citée par Antara dimanche 15 septembre, a déclaré qu'au cours des quatre dernières années, le commerce total indonésien-bulgare et le nombre de touristes bulgares en Indonésie a augmenté de près de 50%. La Bulgarie a également soutenu l'Indonésie dans diverses nominations à un certain nombre de postes dans des institutions internationales telles que l'OMI, l'UIT et l'UNESCO. Iwan a également admis qu'il était toujours actif dans la promotion des programmes du gouvernement indonésien, dont l'un était d'attirer les investissements dans la capitale d'IKN, Nusantara. L'ambassade d'Indonésie à Sofia a également facilité la signature d'une lettre d'intérêt pour un investissement dans le secteur de l'alimentation et des boissons d'un montant de 50 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 771 milliards de roupies, entre les entrepreneurs bulgares et les ministères indonésiens de l'investissement en 2023. La réception diplomatique de l'ambassade d'Indonésie à Sofia a réuni plus de 200 invités, parmi lesquels des représentants du gouvernement central, du gouvernement régional, des hommes d'affaires accomplis, des communautés éducatives et artistiques, ainsi que de la diaspora indonésienne en Bulgarie. Les soldats de la marine indonésienne servant sur le KRI Diponegoro 365 avec la force opérationnelle maritime de la FINUL au Liban ont suivi une formation d'urgence pour anticiper l'escalade de la guerre et du conflit armé. Commandant de la force opérationnelle 28O barré FINUL du contingent Garuda de l'armée nationale indonésienne, le lieutenant-colonel des marines Wirastio Haprabhu, dimanche, a expliqué que cet exercice était conforme à la vision du commandant général de l'armée nationale indonésienne, Agus Subianto, de garantir que les soldats restent professionnels dans les zones de conflit. En outre, l'exercice qui s'est déroulé au port de Beyrouth vise également à préparer les soldats de la marine indonésienne à la mission de retrait des troupes et d'évacuation des citoyens indonésiens par voie maritime, si les routes terrestres et aériennes sont dangereuses, étant donné qu'il y en a plus de 200 citoyens indonésiens et 1000 soldats de l'armée nationale indonésienne au Liban actuellement. Le ministère des Transports de la République d'Indonésie a créé un centre d'intégration de données maritimes ou un centre de coordination maritime, MCC. Le directeur général du transport maritime au ministère des Transports, Anthony Arif Priadi, a déclaré que dimanche 15 septembre, la création du MCC vise à devenir le centre indonésien d'intégration des données maritimes. Il a expliqué que l'avenir, le MCC sera exploité 24 heures sur 24 par la Direction générale du transport maritime. Anthony a déclaré révéler que l'une des activités réalisées au MCC était la réception et la transmission d'informations sur la sécurité maritime et MSI. En dehors de cela, a déclaré Anthony, le MCC fournit également des données et des informations sur le contrôle, la surveillance, la sécurité maritime et la protection de l'environnement maritime. Parallèlement, identifier et détecter la présence des navires et les mouvements réels des navires en temps réel dans les eaux indonésiennes et internationales. La révision de la loi numéro 11 de 2012 concernant le système de justice pénale pour mineurs, UUSPPA, est considérée comme nécessaire pour clarifier les règles pour les enfants en conflit avec la loi. C'est ce qu'a déclaré dimanche le directeur général des droits de l'homme du ministère du droit et des droits de l'homme de la République d'Indonésie, Dahana Putra. Dahana Putra a expliqué que cet ajustement vise à offrir des opportunités de réadaptation efficaces aux enfants délinquants, tout en garantissant le maintien des droits des victimes. Cela s'est également sont accompagnées d'une augmentation des cas de crimes graves commis par des enfants, tels que les meurtres et les violences sexuelles, ce qui a rendu nécessaire une approche de justice réparatrice plus efficace. Dahana Putra a ajouté qu'actuellement la loi SPPA réglemente la justice réparatrice et la déjudiciarisation, mais que ces réglementations ne s'appliquent pas au cas passible d'une peine pénale de plus de 7 ans. Par conséquent, on espère que la révision de la loi SPPA pourra équilibrer le processus juridique avec les besoins de réadaptation des enfants et de justice pour les victimes. La province de Bali est entrée dans l'histoire en remportant sa première médaille d'or en tennis de table lors de la Semaine nationale des sports, PON, grâce à l'épreuve de double mixte lors de la finale qui s'est déroulée dimanche au stade Ankasapura Medan. La paire balinaise Komang Sugita et Made Siska Pratiwi a réussi à battre la paire favorite de Java Oriental Afan Mauluduna et Dwi Octaviani Sugiarto avec un score de 3-2 en un match serré. Ce match a été marqué par une compétition féroce à chaque set, Bali remportant finalement la victoire au cinquième set avec un score de 11-6. Ce succès est la première médaille d'or de Bali en tennis de table dans l'histoire de PON, marquant un exploit extraordinaire pour la province. Le groupe indonésien de coopération bilatérale, GKSB, du Parlement indonésien a tenu une réunion avec le Parlement ouzbek Oli Majlis dans la capitale Tashkent. La réunion, qui s'est tenue du 11 au 14 septembre 2024, a discuté du nouveau gouvernement indonésien et de la coopération entre les deux pays. Le président du GKSB, le Parlement indonésien Edi Baskoro Yudhoyono a déclaré lors de la réunion que le gouvernement indonésien, sous la direction de M. Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka, s'était engagé à encourager un développement inclusif et durable. Il a également déclaré que l'Ouzbékistan était un partenaire stratégique important de l'Indonésie dans le domaine commercial. Selon Edi Baskoro, l'Ouzbékistan possède un potentiel de ressources naturelles abondant et a joué un rôle important dans le développement d'une région intégrée. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Le rôle des Émirats arabes unis dans l'échange des prisonnières de guerre russo-ukrainiennes ». Au milieu de la guerre russo-ukrainienne en cours, les deux pays ont échangé des prisonniers, chaque pays échangeant 103 personnes samedi 14 septembre. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022, 57 échanges de prisonniers ont eu lieu. De tels échanges résultent souvent d'accords négociés par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Turquie. Les Émirats arabes unis eux-mêmes ont joué le rôle de médiateur à 8 reprises. L'échange qui a eu lieu samedi 14 septembre était la 8e fois que les Émirats arabes unis facilitaient un échange de prisonniers entre les deux pays. Le pays a également joué le rôle de médiateur lors d'un échange antérieur en août impliquant 115 prisonniers des deux côtés. Avec l'échange de samedi dernier, le nombre total de prisonniers de guerre échangés grâce à la médiation des Émirats arabes unis a atteint 1894 personnes. Le plus important s'est produit le 3 janvier 2024 lorsque les deux pays ont échangé un total de 478 prisonniers à la suite d'une médiation également facilitée par les Émirats arabes unis. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a souligné en janvier que le succès de cet effort de médiation reflétait le statut mondial des Émirats arabes unis en tant que partenaire de confiance sur la scène internationale, en particulier de la Fédération de Russie et de la République d'Ukraine, pour qu'il puisse aboutir à la libération des prisonniers des deux côtés. Les Émirats arabes unis ont également souligné leur engagement à poursuivre les efforts visant à trouver une solution pacifique au conflit en Ukraine. En outre, soulignant sa position constante en appelant à la diplomatie, au dialogue et à la désescalade des tensions, ainsi qu'aux efforts visant à soutenir toutes les initiatives visant à réduire l'impact humanitaire causé par la crise. La concurrence géopolitique et géoéconomique actuelle rend la résolution des conflits entre pays de plus en plus difficile. Des pays comme les États-Unis et les pays européens ont été des puissances traditionnelles en matière de médiation, ne semblent pas jouer un rôle visible dans la médiation des conflits dans divers endroits, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, en raison de leur implication politique, économique et militaire dans les zones de conflit. Il est de plus en plus difficile pour certains pays d'être considérés comme des médiateurs neutres et impartiaux. Dans ce contexte, de nouveaux acteurs comme les Émirats arabes unis assument le rôle de médiateurs internationaux, jouant un rôle important pour combler le vide laissé par les puissances traditionnelles. L'implication croissante de nouveaux acteurs non traditionnels, notamment les Émirats arabes unis, dans les efforts de médiation témoigne de l'influence croissante des pays de la classe moyenne sur la politique internationale. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers auditeurs, mettons cet temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec Maudrey. Et nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 septembre 1963, avec la formation de l'État de Malaisie. Ce jour-là, le 16 septembre 1963, la nation malaisienne a été créée, marquant la naissance d'une nouvelle fédération en Asie du Sud-Est, combinant la fédération de Malaisie avec Singapour, Sarawak et Sabah, conformément à la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la décolonisation. Cependant, le parcours initial de la Malaisie n'a pas été sans défi. Singapour s'est finalement séparé et s'est devenue indépendante sous le nom de République de Singapour le 9 août 1965. Malgré cela, la Malaisie a réussi à surmonter des moments difficiles et c'est aujourd'hui l'un des pays fédéraux stables et influents de la région de l'Asie du Sud-Est.
Musique.
Chargé tard, ensuite passons à l'événement du 16 septembre. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue indépendante de l'Australie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou PNG, est devenue indépendante le 16 septembre 1975, après avoir été sous domination australienne. Le nom Nouvelle-Guinée a été donné par l'explorateur espagnol Ortiz de Rades en 1545, car sa population était similaire à celle de les peuples de Guinée. Afrique, le nom Papouasie vient d'un mot donné par l'explorateur portugais Jorge de Manassés en 1562, qui signifie « cheveux bouclés ». Après avoir connu le contrôle des Néerlandais, des Britanniques et des Allemands, la région fut finalement administrée par l'Australie après la Première Guerre mondiale. Le 1er septembre 1973, la Papouasie-Nouvelle-Guinée obtient son propre gouvernement dirigé par le ministre en chef Michael Somare et obtient son indépendance totale de l'Australie le 16 septembre 1975. La Papouasie-Nouvelle-Guinée devient ensuite le 142e membre de l'ONU le 10 octobre 1975 et rejoint le Commonwealth avec les premiers ministres et le gouverneur général comme représentants officiels de la reine d'Angleterre. Chers auditeurs, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 septembre 1998. L'équipe nationale indonésienne de football est classée 76e au classement de la FIFA. Chers auditeurs, l'Indonésie a réalisé de fières réalisations dans le monde du football. En 1998, pour être précis, le 16 septembre 1998, l'équipe nationale indonésienne était classée 76e au monde. C'est la plus haute réussite de l'histoire du football national. À cette époque, l'équipe nationale indonésienne était remplie de grands noms tels que Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti et Hendro Kartiko dans la Tiger Cup, aujourd'hui connue sous le nom de Coupe AFF. L'Indonésie a réussi à obtenir la troisième place, affirmer sa position comme l'une des plus grandes puissances du football, redoutée en Asie du Sud-Est et en Asie, citant la page officielle PSSI. Mon cher Jeter, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui.
Kau katakan padaku arti cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafas.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « L'Indonésie et le Pérou ont convenu d'un croisé l'achèvement accéléré des négociations sur l'accord de partenariat économique global CEPA ou IPCEPA. » Citant un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie dimanche 15 septembre 2024, cet accord a été conclu lorsque les deux pays ont tenu mardi le forum de consultation bilatérale FKB République d'Indonésie-Pérou à Lima au Pérou 10 septembre en marge du Forum des affaires Indonésie-Amérique latine et Caraïbes, INALAC. La délégation indonésienne était conduite par le directeur général pour l'Amérique et l'Europe du ministère des Affaires étrangères, Umar Hadi, et accompagnée de l'ambassadeur d'Indonésie au Pérou, Ricky Sun Hendar, et de la directrice d'Amérique du au ministère des Affaires étrangères, Epifania Reyes Usananingdia. Par ailleurs, la délégation péruvienne était présidée par le directeur général de l'Asie et de l'Océanie du ministère des Affaires étrangères, Fernando Julio Antonio Quiroz Campos. Le directeur général Umar Hadi a déclaré que l'achèvement des négociations CEPA entre l'Indonésie et le Pérou serait un catalyseur pour une expansion significative de la coopération commerciale et d'investissement entre l'Indonésie et le Pérou. Il a ajouté que si le CEPA était mis en œuvre, le volume d'échanges commerciaux entre les deux pays pourrait augmenter jusqu'à 3 fois. Le Pérou est l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Indonésie en Amérique latine. En 2023, le commerce bilatéral total entre l'Indonésie et le Pérou a atteint 444 millions de dollars américains. Les négociations sur l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Pérou ont eu lieu pour la première fois du 27 au 30 mai 2024 à Lima, au Pérou. Lors de ce premier cycle, Les négociateurs des deux pays ont axé les discussions sur le secteur des marchandises, notamment en ce qui concerne l'accès au marché pour le commerce des marchandises, les douanes et la facilitation des échanges, ainsi que les efforts visant à surmonter les obstacles techniques au commerce des marchandises. Outre la discussion sur le CEPA, lors de la réunion bilatérale, les deux pays ont également discuté d'autres questions stratégiques dans le contexte bilatéral, telles que la coopération interparlementaire, la défense, le développement économique de l'huile de palme, la lutte contre les stupéfiants et l'éducation. Le directeur général Omar Hadi et ses partenaires ont également discuté des questions régionales et mondiales telles que l'ASEAN-Pérou, les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, AOIP, et la présidence péruvienne de l'APEC 2024. En particulier, les deux pays ciblent également à achever immédiatement un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Depuis l'établissement de premières relations diplomatiques en 1975, les relations entre les deux pays ont été étroites et productives, dont l'une se reflète dans les visites mutuelles au niveau des hauts fonctionnaires et des parlements des deux pays. C'est Juritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, les habitants de Banyuwangi dans l'est de Jawa se sont rassemblés pour célébrer le festival Ndogan afin de commémorer l'anniversaire du prophète Muhammad. Des milliers de fleurs d'Ndog ont défilé de quatre directions, à savoir de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, vers au point de rassemblement devant le bureau du gouvernement régional de Banyuwangi dans l'est de Jawa. La procession dans chaque direction était accompagnée des tambourins, des tambours et de danses kuntulan, une danse typique de Banyuwangi. Chaque participant à la procession porte également une ancak sous forme de nourriture préparée. Dans la langue des Osing, tribu indigène de Banyuwangi, Ndog signifie œuf. Pendant le festival, des milliers d'Ndog sont placés sur des tiges de bambou décorées de fleurs en papier. C'est ce que l'on appelle communément la fleur d'Ndog. Les fleurs d'Ndog sont ensuite enfilées sur le jodang. Le jodang est un bananier qui a également été décoré de papier coloré, puis des œufs décoratifs y sont collés. En accord avec l'époque, les fleurs d'Ndog ne se présentent pas uniquement sous la forme de fleurs, mais se développent selon la créativité de la communauté, par exemple sous la forme de baron, de serpent dragon, d'avion ou de modèle de cône. Habituellement, un jodang contient 27, 33 ou 99 fleurs d'Ndog. La tradition de l'Ndog Ndogan est née à Banyuwangi à la fin du XVIIIe siècle. En ulama du village de Cimoko Songgon, nommé Kiai Haji Abdullah Faqih, utilisait cette œuvre comme support pour la da'wah. Le fleur d'Ndog en elle-même n'est pas seulement un ornement ou un divertissement. Cependant, cette fête est chargée de valeurs philosophiques. Cette tradition utilise des œufs car les œufs sont un symbole de naissance, alors que les fleurs sont un symbole de croûte. Cette fête, qui est une tradition typique de la communauté de Banyuwangi, est une expression de l'amour des habitants de Banyuwangi pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La fête d'Ndog Ndogan s'est clôturée par une conférence religieuse sur l'anniversaire du prophète Muhammad prononcée par Ustad, ainsi que par une prière. Ensuite, l'ancha présente en parade a été mangée en commun. Pendant ce temps, les fleurs d'Ndog ont été distribuées à tous les visiteurs. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le festival Ndog Ndogan à Banyuwangi, Jawa Est ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt! Keep it coming.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Parlons l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bau Bau. Di Bau Bau signifie à Bau Bau. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Bagaimana ceritanya? Je répète, Bagaimana ceritanya signifie comment est l'histoire? C'est une conversation entre Chris, un vlogueur australien, et un guide fort du palais de Bouton à Bau Bau, la province de Sulawesi du Sud-Est. Chris a répondu aux informations du guide sur les pierres sacrées de la forteresse du palais de Bouton. Écoutons le dialogue.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Bouton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Bouton menginjakan kaki.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bagaimana ceritanya? Je répète, bagaimana ceritanya signifie comment est l'histoire. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Bagaimana? Bagaimana signifie comment? Ceritanya? Ceritanya signifie l'histoire. Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Signifie comment est l'histoire, madame? Batu. Batu signifie la pierre. Dianggap. Dianggap signifie prise en compte. Sacral. Sacral signifie sacré. Masyarakat Buton. Masyarakat Buton signifie les Boutonnais. Konon. Konon signifie on dit. Menjadi. Menjadi signifie être. Tempat. Tempat signifie le lieu. Pertama kali. Pertama kali signifie première fois. Sultan. Sultan signifie sultan. Menginjakan. Menginjakan signifie marcher dessus. Kaki. Kaki signifie les pieds. Dans la conversation, vous entendez bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Signifie comment est l'histoire, madame? Dans cette phrase, il y a un mot interrogatif. Bagaimana? Bagaimana signifie comment? Le mot interrogatif bagaimana? Bagaimana signifie comment est utilisé pour poser des questions sur des événements. Dans cette phrase, l'expression bagaimana ceritanya signifie comment est l'histoire est utilisée pour poser des questions sur l'événement selon lequel un lieu de la forteresse du palais de Buton est devenu sacré en réponse aux informations du guide sur le caractère sacré de la pierre. Pour poser des questions sur l'événement, le mot bagaimana signifie comment peut être suivi des mots ceritanya. Ceritanya signifie l'histoire ou bien kisahnya. Kisahnya signifie l'histoire ou bien kejadiannya. Kejadiannya signifie l'incident. Écoutons des exemples d'utilisation de l'expression bagaimana. Bagaimana signifie comment pour poser des questions sur les événements dans une autre phrase. Adli. Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya. Signifie hier soir, il y a eu un vol dans mon logement. Dina. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Signifie comment c'est arrivé? Intan. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Signifie on dit que ce temple a été construit en une nuit. Kiki. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Signifie comment est l'histoire? La forteresse du palais de Buton est un fort défensif du sultanat de Buton qui a été construit au XVIe siècle. Ce fort est situé à Baobao, l'île de Buton, la province de Sulawesi du Sud-Est. Ce fort est également connu sous le nom de Fort Wolio. Le mot Wolio signifie un groupe ethnique qui habite aux régions de Buton et Baobao, Sulawesi du Sud-Est, ou la langue parlée par la tribu Wolio. Avant de terminer, parlons l'indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois la conversation.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Chers amis, voilà l'émission de Parlons l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir! Thank you.
tiba, ku tak bisa menolak awal pertemuan kita. Aku terpesona bila kamu mau jadi yang kedua. Anggap saja
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical avec Maudry. Et je vais vous présenter une chanson croncheon intitulée Sumpah I Love You, chantée par Restian Ade et accompagnée par Mafia Croncheon. Sojetar, cette chanson créée par Ahmad Dhani, popularisée par Mahadevi, est sortie en 2008. Cette chanson raconte la sincérité de quelqu'un qui exprime son amour. Cette chanson décrit également la force de l'amour et du désir qu'une personne éprouve par la personne qu'elle aime. Bon, Sojetar, voici Restianade avec Mafia Croncheon. Vont chanter une chanson croncheon intitulée Sumpah, I love you. Bonne écoute.
Sumpah, I love you. I need you. I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.